Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue au podcast de la rédaction de Game Info. Cette semaine, je serai en compagnie de Ben.
Salut à tous.
De Mordren.
Bonjour, bonjour.
Et de Pixel.
Salut.
Au sommaire de l'actualité cette semaine, on vous parlera du Kickstarter de Grand Legacy. On évoquera également le report de Persona 5. On enchaînera ensuite avec une news chez Square Enix. Nous parlerons également de la NES Mini classique, de la PS4 Pro et du PlayStation VR. Vous allez voir, ces trois machines ont un point commun. Et nous évoquerons Pokémon Soleil Lune, le jeu que a déjà acheté Mordren, j'imagine.
Non, pas encore. Ben, il est pas sorti officiellement.
Hein.
Même si
moi.
Tout le monde l'a, il est pas encore sorti.
Même si tout le monde est à la République, il n'est pas encore sorti.
Non, t'inquiète, la Street Date, elle est complètement broken.
D'accord, ok. Ouais. Nous parlerons d'une rumeur concernant Zelda Breath of the Wild. Nous évoquerons la nouvelle politique d'Electronic Arts concernant les YouTubers et les streamers. Et enfin, nous terminerons par une déclaration de chez Ubisoft qui a défrayé la chronique, n'est-ce pas ? Mais on verra ça en fin de podcast parce que je pense que ça va être le gros morceau. Et on va donc commencer, messieurs, avec le Grand Legacy. Alors, le Grand Legacy, c'est un Kickstarter de JRPG, mais fait par une équipe indonésienne, n'est-ce pas ? Ils demandent 85 000 livres, ils en sont à 8 000, bientôt 9 000. Alors, grosso modo, le Grand Legacy, il a des combats comme Suikoden, il a un système de bataille comme Suikoden, il a un système de base comme Suikoden, il a un système de recrutement de PNJ comme Suikoden, donc voilà, c'est un RPG comme Suikoden, en gros. Vous l'aurez compris, c'est un peu pour ça que je parle de ce Kickstarter cette semaine, parce que je suis un peu une Suikoden War, hein, et Ben également. Voilà. Donc forcément, moi, quand tu me présentes un jeu comme ça et que ça fait des années que j'ai un peu la dalle, je m'y intéresse. Je disais qu'il fait un peu tout comme Suikoden, mais ils exagèrent un peu. Il a quand même une spécificité. Les mecs, ils se sont dit que bon, ok, il y avait un problème quand même dans Suikoden, c'était les combats. C'est-à-dire que les combats de base dans Suikoden, t'avais un peu tendance à faire auto-attaque. Merci, au revoir. Et tu grindais comme ça. Donc du coup, ils se sont dit, alors, il faudrait qu'on rajoute un truc pour rendre les combats intéressants. Et du coup, ils ont rajouté un système qui rappelle étrangement la roue du jugement de Shadowheart. C'est-à-dire qu'en gros, vous avez une espèce de roue. Imaginez une zone en jaune sur votre roue. Et il y a une flèche qui tourne. Et au moment où la flèche passe au-dessus de la zone, il faut appuyer. Comme ça, vous faites un perfect. Voilà, en gros, c'est l'idée. Selon que vous mettez plus ou moins de temps à appuyer, vous allez soit faire un perfect, soit faire juste un coup normal, soit complètement louper votre coup. Sachant qu'ils ont rajouté aussi une spécificité, à savoir que dans ce système-là, normalement, Shadowheart, c'est juste, t'as un bouton, t'appuies, c'est bon, quoi. Voilà. Là, au début de l'action, il faut que tu appuies dans telle direction, en fait. Et si tu appuies dans la mauvaise direction, ton action, elle est foirée d'office. Voilà. J'étais assez sceptique au départ, hein, je vous cache pas, les QTE, c'est pas ma grande passion. Mais il se trouve que ça force à rester attentif, et c'est vraiment pas mal, du coup. Contrairement à certains combats de Suikoden où t'étais un peu là, bon, allez, Osef, auto-attaque. Là, tu peux pas faire ça, quoi. Faut vraiment rester attentif durant toute la baston. J'ai été agréablement surpris par la manière dont les niveaux étaient construits. C'est-à-dire que les ennemis piquent, mais tu arrives toujours au point de sauvegarde au bon moment, quoi, on va dire. Par contre, il y a un truc qui va pas, c'est que les mecs... alors, je sais que c'est une démo de pré-alpha et que c'est un vertical slice et que le but, c'est pas vraiment de présenter un truc beau, mais c'est de dire, tu vois, on a fait une boucle de gameplay et elle marche. Et le fait est que la boucle de gameplay marche. C'est pas révolutionnaire pour un sou, c'est un système de combat classique à la Suikoden avec 6 personnages. Et on a juste rajouté une petite featurette par-dessus, quoi. Mais le problème, c'est que c'est putain de moche, quoi. C'est-à-dire que les gars, ils t'ont fait leur démo, ils ont fait des décors vite fait par-dessus, tu vois. C'est-à-dire que les décors sont pas finis. Tu sens que en gros, t'as le brouillon du décor et que derrière, ils vont faire les finitions, quoi. Et c'est horrible à voir. Alors, autant moi, ça me dérange pas parce que j'ai l'habitude de ce genre de projet. Et ce qui m'intéresse fondamentalement, c'est de voir si la boucle de gameplay fonctionne. Autant, je pense que le financeur lambda, on va dire, il va voir ça, il va dire « Non mais votre jeu, c'est de la merde, vas-y, casse-toi, quoi. » Bon, Ben, quelque chose à rajouter ?
Non, rien de spécial. À noter quand même une particularité aussi dans les combats, c'est que même en fait quand on se fait attaquer, il y a ce mécanisme de roue dans lequel il faut, avec lequel il faut interagir, ce qui est quand même assez rare en fait quand tu te fais attaquer que ça soit le cas.
Oui, c'est-à-dire que, imaginons, vous avez un tour, t'as deux personnages et deux adversaires. À chaque fois qu'un personnage va taper, mais aussi à chaque fois qu'un adversaire va taper, tu vas avoir la roue qui va apparaître, en fait. Ce qui va te faire 4 quick time events à chaque fois qu'il va y avoir une action, quoi, concrètement. Donc du coup, faut être au taquet, quoi.
Ouais, tu peux pas, ouais.
Sinon, juste un truc, alors l'univers est intéressant quand même. J'adore la direction artistique. Par contre, il y a un truc qui m'a ulcéré quand j'ai fait la démo, c'est on a encore droit au héros amnésique, et ça...
Ah ben le début du jeu, putain, c'est typiquement un JRPG. C'est... Y a pas de surprise, y a rien. Alors, particularité, je pense que t'as joué à la manette, toi.
Oui, j'ai joué à la manette.
Moi, j'ai essayé de jouer au clavier, c'est injouable au clavier. Parce que comme tu disais, il faut maintenir une direction et appuyer sur une touche. Et vraiment, pour être précis, avec le clavier, là, c'est vraiment compliqué.
Voilà. Donc, en gros, c'est un JRPG qui n'invente pas grand-chose, hein, il faut bien le dire. Et c'est peut-être ça le plus gros problème de ce Kickstarter, finalement. Alors, ok, ouais, ça fait des années qu'on n'a pas eu un Suikoden, mais déjà, il manque une grosse caractéristique des Suikoden, à savoir les 108 étoiles. C'est-à-dire que l'un des principaux intérêts des Suikoden, c'est que non seulement tu vas recruter des PNJ pour ton château, certes, mais en plus de ça, tu vas recruter des personnages qui vont combattre à tes côtés. Et là, c'est pas du tout comme ça, c'est-à-dire que tu auras une équipe de personnages fixes, apparemment de 6 personnages, ouais, de ce que j'ai compris,
ouais, ouais.
Et derrière, les PNJ que tu vas recruter, c'est vraiment que pour ta base, quoi.
Et puis malheureusement, je suis pas sûr qu'il y ait encore beaucoup de gens qui soient comme nous hypés par Suikoden ou par ce style de jeu, donc c'est vrai que, tu l'as dit, pour l'instant, ils en sont à 9000 pounds, je crois, c'est ça, ils vont y être. Mmh. Ça fait 2 jours, ils demandent 85 000. Généralement, on sait que les projets Kickstarter, c'est les 3-4 premiers jours où vraiment ils gagnent beaucoup, donc ça va être compliqué. Après, voilà. Je souligne quand même la démarche d'avoir fait une démo, même si, comme tu disais, c'est pas joli, etc. On peut toucher du gameplay et c'est très rare, c'est devenu très rare avec les projets Kickstarter, et ça, c'est quand même une plutôt bonne chose.
Ces derniers temps, c'est plutôt la norme en fait.
Ouais, ils sont revenus parce que je t'avouerai que ça fait un moment que j'ai pas regardé, mais c'est vrai qu'il y a eu une grosse période où il y en avait plus du tout.
Justement, ces derniers temps, enfin, le truc, c'est qu'ils ont pas le choix parce que les gens sont beaucoup plus exigeants qu'avant.
Ouais.
Et quand tu étais remarqué, c'est quasi obligatoire maintenant. À moins que, comme d'habitude, tu sois un mec super connu, machin. Mais là, je veux dire, les mecs, ils sortent d'Indonésie. Déjà, t'as les gens, à mon avis, de base, ils doivent se dire, mais Indonésie, ok. Est-ce que c'est pas une arnaque, en fait? Enfin, tu vois, t'es obligé de montrer patte blanche, quoi. Ce que j'ai trouvé intéressant aussi, c'est la démo est dispo sur Steam. Mm. Ce qui est suffisamment rare pour être noté.
Ouais.
Je mettrai le lien, d'ailleurs, dans la description, sachant qu'elle est... téléchargeable à part aussi, hein, vous n'êtes pas obligé de passer par Steam. Écoute, c'est très moche, mais la boucle de gameplay fonctionne, donc moi ça m'intéresse. Voilà, même si j'ai quand même l'impression que c'est un jeu auquel j'ai déjà joué, quoi, si tu veux.
Ouais, pour l'instant, il n'y a rien de fou, mais bon. Après, je sais pas, moi j'ai joué vraiment qu'au début, l'univers c'est très Prince of Persia, un peu ce style. Je sais pas si à plus loin dans la démo ça change un peu, ou c'est vraiment pour l'instant que dans
Pour le moment, la démo c'est que le désert, voilà, etc. Ouais. Donc voilà. Ah oui, le truc qui m'a dérangé aussi, c'est la cinématique d'intro qu'ils ont faite.
Ah ben moi justement, j'ai eu un bug, j'avais pas de cinématique.
Ah bah t'as eu de la chance. On va dire que c'est une agression visuelle et que dans ces moments-là, tu te dis les mecs, faites ça avec le moteur du jeu, quoi. Si c'est pour faire ça, non. Voilà. Bon, allez, on va enchaîner, messieurs, avec Persona 5, qui arrivera, mon cher Ben, un peu en retard.
Et oui, il devait sortir le 14 février en France et il va être repoussé de 1 mois et demi, 2 mois, puisqu'il sortira que le 4 avril. À noter par contre qu'il y aura les voix Jap à la sortie, ce qui est une très bonne chose.
Voilà.
Enfin, très bonne chose. Après, chacun a sa façon de jouer, mais généralement,
ce qui est une très bonne chose, c'est qu'on te laisse le choix.
Voilà, déjà, c'est pas mal. Et puis, moi, je vous avouerai que ça m'arrange tellement qu'il soit repoussé, parce qu'avec FF15 qui sort là bientôt, ça me laissera un peu plus de temps pour le faire, donc c'est une plutôt bonne chose.
Sachant que, je précise, les voix Jap ne seront pas incluses dans les disques, mais seront téléchargeables gratuitement.
Exactement, voilà, ouais.
Ce qui est suffisamment rare pour être noté. Nous allons maintenant parler de Square Enix.
Mm-hmm.
Square Enix, mon cher Ben, qui a quelques soucis.
Oui, les joueurs japonais ont le droit à une ultime démo pour FF15, seulement disponible au Japon. Sauf que le problème, c'est que c'est censé être une démo de la version définitive du jeu, mais elle est plutôt buggé, donc si vous allez faire un tour sur Twitter, vous allez pouvoir trouver plein de vidéos de bugs, de personnages qui restent dans les airs, plein de choses comme ça.
C'est surtout des bugs visuels, j'ai l'impression.
Alors ça a l'air d'être plutôt des bugs visuels. En termes de gameplay, il n'y a pas l'air d'avoir de crash comme ils en avaient pu avoir à la Paris Games Week où le jeu avait planté en plein milieu. Ça, moi en tout cas, j'en ai pas vu en regardant. Après, du coup, il y a Hajime Tabata qui est venu dire sur Twitter, répondre que bah voilà, que c'est des bugs, ça peut arriver, qu'il continue à être à la chasse aux bugs, etc.
Ah mais t'as l'impression qu'il laisse se faire, c'est beaucoup quoi. Le mec, il doit se dire mais pourquoi je me suis embarqué là-dedans quoi.
Voilà, c'est ça. Depuis qu'il a repris le projet, tu sens bien que lui, il est vraiment à fond dessus et qu'il veut en faire un truc vraiment bien. Et que ça lui fait mal au cœur qu'il y ait encore ce genre de bugs, etc. Et que voilà. À noter du coup. Qu'ils ont déjà annoncé qu'il y aura un patch day one de 7 Go, justement, pour corriger encore pas mal de problèmes.
Putain, mais attendez, là, je comprends plus, moi. On m'avait dit, le jeu est reporté pour qu'il n'y ait pas de patch day one, et finalement, il y en a un. Enfin, tu vois, c'est...
Ouais, c'est toujours, mais bon, ça me fait un peu chier, parce que bah, 7 Go, le temps que je télécharge avec ma super connexion, j'en ai pour 3 heures. Mais après, si ça peut me corriger des bugs, pourquoi pas. Après, il faut pas, comme on l'a déjà dit ici, que ça devienne une habitude de sortir des jeux buggés et de préparer un patch day one, quoi. Alors, je suis peut-être... un peu FF fan en disant ça, mais on en avait parlé, ils l'ont repoussé. C'était plutôt une bonne démarche dans l'idée parce
que. Est-ce qu'on n'a pas fait Bethesda?
Voilà, ouais. Parce que ils avaient quand même fait une grosse campagne de com en sortant le film, la série animée, etc. Et le jeu devait sortir au même moment. Et finalement, le jeu sort 2 mois après tout ça. Donc c'est vrai que leur campagne a été un peu chamboulée par rapport à ça. Donc c'était bien parti. Après voilà, ça peut arriver des bugs. On sait que le jeu il a eu multiples reboots, ça a été compliqué. Maintenant faut attendre de voir.
Voilà. Bon alors par contre je voulais quand même féliciter Square Enix pour avoir fait une démo, hein, ce que ne font pas d'autres éditeurs déjà premier
c'est
point.
Vrai.
Et surtout de communiquer là-dessus parce que on a vu ce que ça a donné la semaine dernière avec Bethesda qui te sort un jeu comme ça. Oh non y a pas de problème. Et puis c'est quand les joueurs commencent à gueuler que ah bah oui excusez-nous on va faire un patch tu vois donc malgré tout ça attendons de voir voilà mais attendons de voir hein. J'ai pas dit précommander voilà moi je leur laisse le bénéfice du doute j'espère que il y aura pas des gros problèmes à la sortie parce que malgré tout ça m'inquiète un peu tout ça hein. Le fait que encore à ce stade ils aient autant de problèmes ce n'est pas rassurant bon du coup Pixel, nous allons maintenant parler du phénomène d'inflation dans le jeu vidéo, n'est-ce pas? L'inflation des accessoires et des consoles qui ne sont pas dispo dans les magasins, parce que je crois qu'il y a un petit souci de pénurie là en ce moment.
Ouais, alors l'info vient du site lemonde.fr, pardon, donc un site avec des journalistes soi-disant très sérieux, enfin je veux bien le croire. Et qui dit que la PS4 Pro, PlayStation VR et la Nintendo Mini Classic seraient en pénurie, en tout cas pour la France. Et que cette pénurie conduirait certaines personnes mal intentionnées, qui posséderaient tous ces objets de convoitise, à les vendre sur le Bon Coin ou sur eBay à des prix absolument exorbitants. Donc ça, c'est un petit peu un problème. Alors moi, je vais donner un peu mon expérience personnelle là-dessus. J'habite dans le nord de la France, donc je suis allé faire un petit tour dans les supermarchés de la région, plus un Micromania où j'ai l'habitude d'aller. Et ben la PS4 Pro, ben, je la vois partout. Alors certes, elle est pas en énorme quantité, mais à chaque fois, il y a toujours une petite pile d'une dizaine de consoles, donc elle est là. Le PlayStation VR, j'en ai vu que chez Micromania, mais c'est là. Certes, ils en avaient que 2 exemplaires, mais ces 2 exemplaires, ils ont l'air d'être là depuis quand même plus d'une semaine, quoi. Donc, ils ont pas l'air de les vendre. Ou alors, c'est juste des cartons pour faire une sorte d'appel aux consommateurs pour qu'ils puissent réserver ou je ne sais pas quoi. Mais apparemment, ils les vendent chez Micromania. Et par contre, pour la Nintendo Mini Classic, ça c'est vrai, elle est en pénurie absolument partout. Nulle part, mais vraiment nulle part. En France, nos supermarchés ont quand même des pouvoirs d'achat surdimensionnés par rapport à un Micromania ou des boutiques indépendantes. Et même si nos supermarchés n'arrivent pas à avoir des mini NES classiques en grand nombre ou même en petit nombre, c'est qu'il y a vraiment un problème. Et c'est que le problème vient de chez Nintendo. Alors moi, j'ai une théorie qui vaut ce qu'elle vaut. mais je pense plutôt que Nintendo a voulu d'abord sortir sa console en petit nombre, enfin en petit, avec un petit batch, comme on dit, d'abord pour tester le marché, et ensuite créer un effet de demande, quoi. Parce que si tout le monde peut pas l'avoir, tout le monde va vouloir l'avoir. Et bien sûr, une fois que le second batch de console va sortir, sera disponible, tout le monde va vouloir l'acheter. Donc ce serait vraiment créer une pénurie de toutes pièces, ce qui est tout à fait possible, hein, parce que de toute façon, Nintendo, c'est quand même l'entreprise de jeux vidéo dans le monde qui a le moins à perdre en faisant de la pénurie programmée. Ce qui n'est pas le cas de Sony, qui a intérêt à vendre des PS4 Pro, parce que ils sont toujours en première ligne des consoles les plus vendues, mais ils ont envie de le rester. Par contre, Nintendo, eux, ils en ont rien à foutre, parce que de toute façon, ils balancent tout leur pognon dans la Nintendo Switch qui va sortir l'année prochaine, et ils peuvent se permettre, entre guillemets, de perdre de l'argent en faisant de la pénurie programmée. Mais malheureusement...
Ou alors, ils ont complètement sous-estimé la demande aussi. Parce que moi, aussi, honnêtement... Je suis étonné du succès de la machine, je veux dire, c'est quand même un Raspberry Pi dans une boîte où on t'a mis un émulateur dessus et on te dit, tiens, tu vas te faire tourner ça sur ta télé HD, je vais voir, c'est dégueulasse. Bon, voilà, bon, vous aurez compris, moi ça me fait pas rêver, hein, mais moi je pense qu'ils ont été complètement pris au dépourvu par le succès du truc et que du coup, ben voilà, on se retrouve avec des connards sur le bon coin qui te vendent ça à 400 balles, quoi, le prix du PS4.
Bon, là ils se sont rendu compte quand même que les gens n'achetaient pas trop, du coup les prix ont baissé quand même depuis la semaine dernière, mais c'est quand même assez impressionnant. Alors d'après des chiffres de distribution cités par Le Monde, encore une fois, il y aurait eu que 100 000 NES Mini qui auraient été alloués en fait à la France, ce qui peut expliquer la pénurie, puisqu'au final 100 000 dans tous les points de vente en France, ça fait quand même pas beaucoup par point de vente. Bon, après organiser une pénurie, ça paraît quand même étonnant, surtout pour un objet comme celui-ci qui est censé justement se mettre sous le sapin. Ouais, je pencherais plutôt sur ce que tu dis, Thierry. C'est peut-être qu'ils ont justement, sous-estimé la demande.
Parce que
possible,
là, si
en fait.
Vous voulez, le truc aussi pourquoi je suis dubitatif, parce que j'ai quand même bossé dans l'e-commerce et je sais quand elles vont les ventes. Et les ventes, elles se font maintenant.
C'est ça.
Les plus grosses ventes, c'est maintenant, parce que les gens, ils achètent en avance leur cadeau. Hein. Bon, il y en a qui achètent au dernier moment aussi. Hein, Mais le rush, c'est maintenant.
Mais les gens ont surtout très peur de pas avoir le cadeau qu'ils veulent offrir à telle ou telle personne. Du coup, ils se disent, avant qu'il y ait une pénurie, je veux l'acheter tout de suite. Du coup, c'est peut-être, ça joue probablement sur cet effet-là.
Ouais, mais sauf que Nintendo, j'en reviens à ma théorie, sauf que, certes, même si les meilleures ventes, elles se font maintenant, j'ai envie de dire, Nintendo, c'est presque pas leur problème, vu qu'ils vivent un peu dans un autre monde, et ils ont pas besoin de cet argent-là, en fait.
Oui, mais en janvier, personne n'en voudra de ça. Enfin,
Ouais, mais ils vont le sortir en décembre. Il y aura des nouvelles fournées en décembre, de toute façon.
Ouais. Écoute, moi, je pense que si le produit, il s'attendait à avoir un tel succès, ils en auraient en stock. Ça aurait été lancé il y a un mois, j'aurais dit bon, ok, c'est crédible, parce que les mecs, ils attendent qu'on soit en pleine période de rush, tu vois, pour balancer la sauce. Mais là, ça me paraît beaucoup trop tard. Enfin, au niveau du timing, pour moi, ça colle pas, quoi, c'est tout. Après, bon, voilà. Ce n'est jamais qu'un émulateur dans une putain de boîte.
C'est même pas vraiment un émulateur, parce qu'en plus, il est même pas évolutif. T'es bloqué à 30 jeux.
Limite, pour moi, en fait, c'est plus un objet de... Enfin, de collection, quoi.
Ouais, mais c'est totalement ça.
De toute façon, tu vas mettre dans une vitrine, tu sortiras jamais de la vitrine, puis voilà, quoi. Parce que franchement, jouer ça à ça sur une télé HD, putain, faut aimer se faire mal, quand même, hein, la vache, quoi.
Mais d'ailleurs, en parlant de pénurie, en voyant justement que les gens peuvent pas acheter la NES Mini, j'en vois pas mal en ce moment, parce que je me renseigne sur le sujet, mais tu vois des vidéos YouTube qui partent de partout sur comment on crée une Raspberry Pi, en fait. Et du coup, je suis pas sûr que s'ils ont effectivement organisé une pénurie, si c'est vraiment un bon délire pour eux, en fait. Parce que quand on t'explique en vidéo qu'en fait une Raspberry Pi, c'est moins cher, et en plus t'as toute la ludothèque NES et t'as toute la ludothèque de telle ou telle ou telle ou telle, et telle console, ça commence à faire beaucoup en termes d'arguments de vente, quoi.
Bon, on va passer à la news suivante, messieurs.
Oui.
Et on va évoquer les Pokémon qui vont rapporter plein de pépettes à Nintendo.
Oui, ça c'est une certitude. Bon, ça on le savait déjà. Hein. Je rappelle quand même que la sortie en Europe est prévue le 23 novembre, mais depuis aujourd'hui en fait, on voit sur Twitter les gens ont déjà mis le jeu en vente. Donc bon, a priori le jeu est d'ores et déjà en vente en France et pas que à République d'ailleurs. Et en parlant de ça, en fait, c'était surtout pour vous dire que Nintendo en attend énormément en termes de vente, parce que en termes de distribution, il y a 10 millions de Pokémon Soleil et Pokémon Lune qui ont été distribués partout dans le monde. Les deux derniers, c'était 8 millions. Et donc là, il tape direct sur 10 millions. C'est probablement aussi dû à l'effet Pokémon Go de cet été, puisque on avait vu une explosion des ventes de justement Pokémon X, Y et Pokémon Ruby et Saphir. Enfin, Ruby, Alpha et
Saphir,
Omega. Ouais, oui, c'est ça. Ouais. Truc dans ce genre-là. Enfin, c'est Rosa, quoi. Du coup, ouais, peut-être que Nintendo, justement, en attend plus en termes de buzz. Et donc, c'est vrai qu'on a vu aussi dans le métro à Paris, notamment, des publicités, enfin, d'affichage qui ont notamment pompé le style de Pokémon Go en termes de visuel. Donc, voilà, c'est la grosse sortie de fin d'année de Nintendo, puisque, a priori, il n'y a pas grand-chose d'autre. Donc voilà, ça c'était pour vous dire au niveau des attentes de Nintendo. Après, on a eu aussi aujourd'hui des rumeurs qui sont sorties, notamment chez Eurogamer, qui ont été ensuite confirmées par un certain nombre d'observateurs du milieu du jeu vidéo. A priori, chez Pokémon Company, on travaille sur une version Nintendo Switch de Pokémon Soleil et Lune. Le nom de code s'appellerait Pokémon Stars. Donc Pokémon étoile, et ça serait prévu donc pour 2017 logiquement. Pour l'instant, on ne sait pas si ça ressortira en même temps que la Nintendo Switch au printemps prochain, mais en tout cas, c'est ce qui est prévu en rumeur, bien sûr, hein, ça reste à confirmer.
Ce que je trouve intéressant, si ça se confirme, parce que je rappelle que c'est les distribués, hein, parce que bon, on nous présente toujours les distribués comme les vendus, mais faut quand même les vendre hein, derrière.
Ouais. Bon, dans le cas de Pokémon, ça me surprendrait pas trop, mais ouais.
Si ça se confirme, en tout cas, derrière, ça veut dire que leur stratégie mobile elle est payante, parce que ouais. Ça veut dire que concrètement, contrairement à ce qu'on aurait pu penser, à savoir que le fait de sortir des jeux sur mobile, ben les gens ils vont acheter les jeux sur mobile, ils vont pas les acheter sur console. Ben non, en fait ça a l'effet exactement inverse, c'est-à-dire que le jeu sur mobile est un produit d'appel et derrière ben on vend des entre guillemets vrais jeux.
En parlant de mobile d'ailleurs, tu me fais penser à une digression, je suis désolé mais ça va durer deux secondes. Ils ont annoncé la date de sortie de Super Mario Run justement sur iOS et le prix, ça sera vendu 10 balles. Tout de même, et ça sort du coup le 15 décembre. Donc à voir justement si c'est un four ou si les gens vont acheter en masse, mais ça pourrait effectivement nous donner un bel indicateur.
Juste pour revenir sur un point rapide, tu disais justement que c'était des versions distribuées, mais j'arrive plus à retrouver le lien, oui. Mais Amazon a dit aujourd'hui que Pokémon, alors les deux versions comprises, c'était déjà classé dans les 10 meilleures ventes annuelles des produits Amazon, alors que le jeu est juste en précommande. Donc voilà, les ventes sont déjà assurées.
Très bien.
Alors, toujours au rayon des rumeurs chez Eurogamer. Alors, juste pour précision, d'habitude, on reprend pas les rumeurs, mais pourquoi on reprend celle-là? Parce que ça vient de chez Eurogamer et que toutes les infos qui sont sorties sur la Switch et qui se sont avérées exactes jusqu'à maintenant, elles viennent de chez Eurogamer. Et d'après Eurogamer, Zelda Breath of the Wild ne serait pas dispo au launch en mars. Ce qui veut dire potentiellement que la version Wii U serait retardée aussi.
Ça paraît logique.
Ce qui veut dire que les joueurs Wii U dont je fais partie ont bien les boules.
A priori, ça serait une question de localisation qui est pas tout à fait prête. Et du coup, en fait, alors la localisation d'un jeu vidéo, c'est pas le truc qui arrive en bout de course. C'est-à-dire que vous traduisez pas le jeu une fois qu'il est tout terminé. En réalité, il y a toute une période de QA testing juste sur la localisation. Et ça prend des mois, et a priori c'est ce qui retarde la sortie de Breath of the Wild, selon la rumeur bien sûr.
Alors est-ce que du coup ils vont pas complètement dégager la version Wii U et se concentrer sur la version Switch? Ça serait très drôle ça, tiens.
Je sais rectal, pas,
ça serait pas mal.
Mais ils pourraient nous refaire le même coup que le Zelda qui était sorti sur GameCube. C'est-à-dire qu'ils vont sortir le même jeu sur GameCube et Wii, Mais la version GameCube, ils vont nous en sortir genre 100 000 exemplaires, mais pour le monde entier,
ouais,
tu vois.
Ouais, ça coûtera un bras après.
Voilà. Ils seraient capables de le faire, et après, ça va valoir une fortune sur
ah,
eBay.
Ah, c'est vrai,
et...
putain, j'avais oublié ouais, ça, tu aussi, me le rappelais. C'est vrai qu'ils nous avaient fait ce coup-là aussi, de sortir en très peu d'exemplaires sur le GameCube pour que les gens l'achètent sur Wii. Putain, j'avais oublié ça. Bref, voilà, si ça se confirme, c'est du foutage de gueule quand même. Enfin, vis-à-vis des... joueur Wii U, franchement, c'est... Parce que, à la limite, qu'il soit pas au launch, bon, voilà, c'est le problème de Nintendo, tu vois. Je pense qu'ils ont prévu un Mario à côté, bon.
Ouais.
Mais que les gens sur Wii U n'aient pas de jeu, alors que là, on est en train de crever la dalle, c'est quand même putain de dégueulasse, quoi. Voilà. Bon, messieurs, nous allons enchaîner avec tout autre chose. Nous allons parler d'Electronic Arts et des influenceurs, mon cher Pixel.
Ouais, alors c'est une news qui nous vient de Gamasutra. Mais Electronic Arts, à partir de maintenant, va forcer les youtubeurs et les streamers à intégrer un logo Electronic Arts sur leurs vidéos. Alors, ce sera deux types de logos, en fait. On aura un logo pour ceux qui seront payé, donc rémunéré par Electronic Arts, et il y aura un logo pour ceux qui ont reçu un jeu gratuit par Electronic Arts aussi. Voilà, donc ça c'est la news. Donc maintenant, il y aura plus de transparence avec, au moins avec les jeux Electronic Arts. Et c'est bizarre que ça vienne d'Electronic Arts en plus, quoi.
C'est aussi peut-être parce qu'ils ont beaucoup de contenu de ce type-là qui sortent sur Internet, et justement, il y a des organismes qui tapent sur justement ces employeurs-là.
Alors, de ce que j'ai compris, il y a le législateur américain qui est en train de se pencher sur la question, en fait.
C'est ça.
Pour la petite histoire, cette news, en fait, elle vient du blog allemand d'Electronic Arts. Et ça a été traduit ensuite par NeoGAF. NeoGAF, hein, la mec des journalistes dans le monde, c'est là que tu trouves toutes les infos. Ce qui m'a paru curieux, c'est que ça n'était pas relié sur les autres blogs d'Electronic Arts. Mais en tout cas, écoute, pour une fois que Electronic Arts fait quelque chose de bien, je vais pas gueuler. Ouais. C'est-à-dire que, ben putain, de la transparence, enfin quoi. C'est 10 fois mieux que ce que fait Bethesda. Oui, je sais, je tape beaucoup sur Bethesda en ce moment, mais parce qu'ils le valent bien. Voilà, non, mais là, au moins, on est au clair, quoi, tu vois. Écoute, tu veux bosser avec nous, ben tu assumes le fait que tu bosses avec nous, quoi. Tout simplement.
Ouais, a priori, ça serait une obligation contractuelle, hein. Ça serait même pas genre le youtubeur qui dit « Ouais, mais non, je vais pas le mettre. » C'est genre EA qui les oblige.
Tu veux recevoir ta copie du jeu, bah tu le mets. Tu veux recevoir tes sous-sous, tu le mets. Très bien, propre, net. Et si tous les éditeurs pouvaient faire comme ça, ça serait vachement bien. Qu'on sache, tu vois, à quoi s'attendre quand on voit une vidéo, quoi. Est-ce que c'est une publicité? Est-ce que le mec a reçu sa copie du jeu gratuitement? Alors après, il y a des youtubeurs qui le font, hein, genre Shoka, avec The Game Cult, lui, il le fait. Mais moi, je trouve ça bien que on ne compte pas que sur la bonne volonté des youtubeurs.
À noter que sur l'article de Gamasutra, on précise également que ce n'est pas que pour le contenu vidéo, c'est également pour les contenus qui sont écrits.
Ah, bah c'est encore mieux. Ouais. Alors, si vous pouvez faire ça avec jeuxvideo.com, ça serait vachement cool. Bon, on va terminer avec. Une news venant du Monde.fr, encore. Le Monde.fr qui a eu une interview avec Serge Ascoët, qui est donc le monsieur, comment dire...
Le directeur éditorial d'Ubisoft.
Ouais, voilà, monsieur éditorial chez Ubisoft, qui a parlé, mon cher Mandren, ben écoute, de ses projets éditoriaux, justement.
Ouais. Alors, donc Serge Ascoët, donc, est le directeur éditorial d'Ubisoft depuis 16 ans. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, directeur de l'éditorial chez Ubisoft? Ça veut dire que c'est lui qui mène l'orientation prise par l'éditeur dans ses productions. Mm. Il a une vision d'ensemble sur toutes les productions Ubisoft. Donc, c'est intéressant d'avoir son avis. Et justement, il a un avis très tranché sur le futur des jeux Ubisoft, et notamment des jeux en monde ouvert, puisqu'il promet que la narration linéaire habituelle sera de moins en moins présente dans les futurs jeux Ubisoft. Pour lui, en fait, l'approche nouvelle d'Ubisoft est celle tout d'abord de création d'un monde, qui doit être intéressant, dans lequel n'importe quel joueur peut s'amuser, qui doit être peuplé de gens intéressants et qui, dans un premier temps, on doit pouvoir se sentir bien et qu'on pourrait même explorer seul comme un touriste a-t-il dit. Mmh. Et c'est dans un second temps qu'arrive l'amusement du joueur. Donc, c'est-à-dire que pour lui, il y a d'abord l'édification de l'univers dans lequel va se dérouler le jeu, c'est-à-dire qu'il soit dans un univers existant déjà, donc typiquement le San Francisco de Watch Dogs 2.
Ce qu'on pourrait résumer par l'immersion, en fait.
Voilà, exactement. Et ensuite vient le gameplay seulement. Mmh. Alors qu'avant, il partait plutôt depuis l'histoire, le gameplay, et ensuite le monde dans lequel on met le gameplay. Et donc du coup, là, c'est plutôt le monde. Et donc justement, lui a tendance à plutôt mettre de côté la narration classique. Je cite, « Je ne veux plus que le joueur subisse l'histoire créée par quelqu'un. » Pour lui, l'idée, c'est qu'on laisse le joueur écrire sa propre histoire, que ce soit lui-même qui fixe un objectif sur le long terme, et qui choisisse un chemin qui a été tracé pour lui, ou qui choisisse de ne pas le suivre. C'est ce qu'ils appellent l'anecdote factory, donc l'usine à anecdotes, où le joueur seul va décider d'expérimenter dans le jeu, de créer ses propres histoires, et du coup de choisir ensuite de raconter son ressenti aux autres joueurs. Donc pour lui, la notion de partage est extrêmement importante dans sa vision des futurs jeux Ubisoft. On retrouve un petit peu cet aspect un peu gameplay émergent où justement, avec les possibilités de gameplay, le joueur peut te raconter des anecdotes qu'un autre joueur n'aura pas forcément vécues. Alors forcément, ça paraît un peu paradoxal, étant donné le passif des jeux open world d'Ubisoft, notamment Far Cry et Assassin's Creed, et il raconte justement que, je cite, « Par facilité, par habitude, par historique, on avait glissé beaucoup de narration dans Assassin's Creed, et il y en aura de moins en moins dans les jeux à venir. » Il cite justement le prochain Assassin's Creed comme étant le premier véritable jeu à mettre en pratique cette nouvelle philosophie du jeu vidéo que lui prône. Dans l'interview, il mentionne également un jeu secret dont il peut pas parler et qui serait aussi dans cette mouvance-là. Et puis, donc, dernière chose, il revient sur les cinématiques. Pour lui, c'est assez embêtant parce que ça m'enlève ma capacité d'expression. Je ne veux pas qu'on me raconte une histoire, je veux qu'il y en ait 10 000, que chaque personnage en soit une, et que je puisse aller l'interroger si j'en ai envie, sans qu'on me l'impose. Donc voilà un petit peu tout ce qui est en train de se tramer, en tout cas dans les jeux open world d'Ubisoft, c'est un véritable bac à sable, dans lequel au final la narration a moins d'importance que ce qu'on a pu lui connaître jusqu'ici dans les jeux Ubisoft. L'objectif, c'est justement de gommer les rails d'une narration, pour proposer aux joueurs un vaste éventail de possibilités. Et c'est à partir de ça, en fait, que lui va créer ses propres anecdotes qui lui seront personnelles.
C'est bon ? On peut
commencer ? Oui, tu peux y aller. J'étais un peu long, mais bon, c'était important.
Il y a beaucoup de gens qui ont mal réagi à cette news, en fait. C'est-à-dire, il y a beaucoup de gens qui ont dit... de toute façon, les scénarios dans les jeux Ubisoft, c'était déjà pas brillant. Alors, si en plus tu te dis que maintenant, ce qui est peut-être pas faux d'ailleurs, hein, mais ce qui lui a été reproché, c'est le fait que, en gros, il impose sa vision. Mm-hmm. Mais j'ai envie de dire, c'est un peu son boulot.
Oui.
Donc moi, fondamentalement, qu'il le fasse, ça me dérange pas. Surtout qu'après, ces jeux, je suis pas obligé de les acheter. Ce qui me dérange beaucoup plus, par contre, c'est l'espèce de trait d'union qui est fait entre narration et cinématique. Pour moi, ce dont il me parle, ça va tendage, en fait. Et je pense qu'il y a d'autres développeurs qui ont montré depuis qu'il y avait moyen de faire de la narration autrement. Typiquement, Dark Souls. Dark Souls, t'as de la narration partout, tout le temps. La narration, elle est dans le décor, elle est dans la description des objets, elle est parfois dans une phrase que te balance un personnage qui a l'air anodine comme ça, mais quand tu relis ce que le personnage te dit à ce moment-là, avec tous les détails qu'il y a dans le décor, tous les détails qu'il y a dans la description des objets, etc., t'arrives à construire une histoire, en fait. Il y a une vraie narration dans Dark Souls. Et pourtant, des cinématiques dans Dark Souls, il y en a quasiment pas. Et moi, c'est ça qui me gêne, c'est que j'ai l'impression qu'il y a une vision de la narration qui est assez... Ouais, ça a l'air un peu assez étriqué, quoi, quand même, hein. Si pour lui, la narration, c'est des scènes cinématiques où tu joues pas, je comprends qu'il en veuille plus, hein, oui, sauf que j'avais justement un peu l'impression qu'on était passé à autre chose depuis un moment, déjà. Donc, je trouve ça dommage qu'apparemment, chez Ubisoft, on soit resté à l'ancienne école, quoi. Et qu'on ait décidé, apparemment, visiblement, de jeter le bébé avec l'eau du bain, plutôt que de mener une vraie réflexion sur comment on fait pour faire une narration qui implique le joueur. plutôt que de dire la narration on s'en fout, il faut que le monde soit immersif et le joueur il va se créer son histoire tout seul comme dans Minecraft quoi, tu vois.
Mais cela dit, il appelle cette narration un peu classique et traditionnelle. Moi, je pense plutôt aux Assassin's Creed en fait. C'est-à-dire que en réalité, dans les missions, c'est du pur gameplay. T'as du blabla de temps en temps au début et à la fin, mais concrètement, voilà. Et en général, en plus, c'est des cinématiques, en tout cas des cinématiques in-game. Et puis il y a des moments où t'as le jeu s'arrête entre guillemets, ou alors le joueur pose la manette et regarde ce que le développeur a envie de lui montrer. Et je pense que c'est ça qu'il critique en fait, Serge Asquette. Mais du coup, moi, quand je regarde un petit peu ce qui se fait notamment dans Watch Dogs, il y a qu'à regarder chez Ubisoft en fait. En réalité, la narration, elle est bien plus à l'intérieur du jeu que simplement dans des cinématiques. Le personnage principal va rencontrer un personnage secondaire qui va commencer à lui taper la discute. Puis d'un coup, ils vont se mettre à marcher l'un à côté de l'autre. Ou alors, il va recevoir un coup de fil, puis la narration va se mettre en branle de ce point de vue-là. Au final, je trouve que ça fait longtemps qu'on est passé à autre chose. Certes, il reste encore des cinématiques parce que...
Faut bien en mettre plein la vie de temps en temps aux joueurs, quoi.
Exactement. Mais au final, on est déjà passé à autre chose, et même Ubisoft est déjà passé à autre chose. Du coup, je comprends pas trop, en fait, cette prise de position. En tout cas, maintenant, en disant, vous allez voir, en 2017, le prochain Assassin's Creed, ça va être une nouvelle façon d'imaginer le monde ouvert, en fait. Parce qu'au final, il est déjà un peu réimaginé, rien que dans Watch Dogs. Du coup, je suis un peu étonné.
Je pense qu'en fait, tu viens de mettre le doigt dessus. C'est les ventes du dernier Assassin's Creed qui n'ont pas été bonnes. Et là, c'est un moyen de dire, on va changer des choses, ouais. Même si ça a déjà commencé avec le dernier Watch Dogs, mais de dire, voilà, on va changer des choses pour le prochain Assassin's Creed. Vous allez voir, achetez-le, ça va être cool, quoi. Enfin, moi, je le vois plus comme ça, en fait. Mais bon, après, je sais pas.
Pixel, quelque chose à ajouter ?
Moi je dirais plutôt que c'est vrai que le mec ça a pas grand chose à voir avec le fait qu'il n'y ait plus de scénario ou qu'il y en ait très peu. C'est que j'ai remarqué un truc bizarre, c'est qu'il prononce pas mal les mots Assassin's Creed et que j'ai l'impression qu'il fasse quand même un peu de la publicité pour le prochain, quoi, qui va arriver l'année prochaine. Tout le monde s'attend à ce que le prochain Assassin soit différent des autres et j'espère qu'il sera différent. Quand il dit qu'il y aura plus de scénario, en fait, je crois qu'il faut comprendre, qu'il faut lire entre les lignes, c'est qu'il y aura plus de scénario tel qu'on le connaissait jusqu'à maintenant.
Ouais.
Je pense que ce qu'il veut dire, c'est qu'il y aura certainement une nouvelle façon de raconter une histoire. En tout cas, dans le prochain Assassin, à mon avis, ils vont tester cette nouvelle méthode avec le prochain Assassin. Et si ça marche, ils vont le copier pour leurs autres jeux. Après, ils pourront faire, c'est ce que j'avais pensé aussi, moi, qu'ils fassent une narration à la Dark Souls et que finalement, c'est pas les PNJ qui te racontent une histoire, mais tout le reste. Ce qui serait plutôt pas mal, ce qui pourrait quand même donner une note un peu plus, comment dire, plus mature au jeu Ubisoft, même si Watch Dogs 2, il a quand même cette imagerie Fun Radio Skyrock que j'aime pas du tout. C'est peut-être pour ça que je vais pas y jouer, en tout cas pour l'instant. Mais bon, on verra bien. On verra bien. Mais en fait, j'ai hâte de voir ce que ça va donner leur nouvelle méthode de scénarisation.
Ouais. Par contre, juste une petite remarque. Le mec il dit pendant l'interview, oui, j'imposerai à mes équipes. tout le monde dit que nos jeux ils se ressemblent, mais c'est parce que nos équipes décident de se pomper les unes les autres. Et derrière, il te sort que, oui, mais quand même, j'aimerais bien que tout le monde fasse ça maintenant chez nous. Hein. Je trouve qu'il y a une petite contradiction dans le discours. Et justement, ouais. C'était ça que j'aurais à objecter, c'est que, je suis curieux de voir ce qu'ils sont en train de faire, là. Par contre, ce serait bien que tous leurs jeux, ils se ressemblent pas, quoi, quand même. Parce que c'est peut-être ça le plus gros problème des jeux Ubisoft jusqu'à maintenant.
Mais justement, le journaliste pointe le doigt, en fait, sur les codes qui sont très identifiables dans les jeux Ubisoft, en tout cas les jeux Ubisoft à monde ouvert. Vous savez, ces fameuses tours, ces missions secondaires, cette espèce de remplissage du monde permanent.
ATH serait là, il vous aurait fait 20 minutes.
Moi, je t'ai fait ça en 30 secondes. Qu'est-ce que tu vas faire? Et du coup, il promet quand même qu'il n'y a plus de répétitivité dans les structures du gameplay. Alors, en tout cas, dans le nouvel Assassin's Creed, c'est comme ça qu'ils veulent le penser. Pour l'instant, c'est une belle promesse en l'air. Hein. On attend de voir sur pièce, mais en tout cas, c'est l'objectif. En tout cas, ils sont bien conscients des critiques qu'on leur a fait. Après, reste à savoir de quelle manière ils vont réussir à s'échapper des carcans, parce que là, c'est bien gentil tout ça de nous dire on crée un monde et ensuite on pense au gameplay. Mais moi, quand on me dit ça, je me dis, est-ce que justement, en ayant créé un monde sans penser d'abord au gameplay, est-ce qu'au final, enfin, quand on arrive à la phase de création du gameplay, on ne fait pas que remplir ce monde avec des choses qui sont pas forcément pertinentes, quoi. Du coup, c'est ça qui m'interroge un petit peu sur ces déclarations. Et d'ailleurs, on avait à peu près eu cette même conversation à l'époque de la grande révélation de Zelda Breath of the Wild, avec justement cet aspect gameplay émergent et tout, en se disant, mais c'est bien tout ça, mais est-ce qu'on avait vraiment envie de jouer à ça dans un Zelda? C'est pareil, est-ce qu'on a vraiment envie de jouer à ça dans un Assassin's Creed ou dans un Far Cry? Dans un Far Cry, c'est un peu différent, mais Assassin's Creed, concrètement, qu'est-ce qu'on va devoir faire dans ce monde-là qui va véritablement nous faire nous faire grimper au rideau, tu vois? Parce que concrètement, moi aussi, hein, je me racontais mes histoires quand je jouais à Assassin's Creed 2, tu vois, et que je montais tout en haut d'une cathédrale, et que au final, j'arrêtais complètement de jouer à la narration principale pour faire les quêtes secondaires. Mais au final, c'est un peu ça qu'ils nous promettent en réalité, en nous disant bon bah finalement le rail principal, t'as pas vraiment besoin de le suivre, tu fais ce que tu veux. Bah oui, c'est ce que je fais dans à peu près tous les GTA, quoi. Du coup, je suis un peu, je suis circonspection.
Il faut quand même pas oublier que malgré tout, les GTA, t'as toujours une structure très rigide au niveau de la trame principale, quoi.
Ouais.
C'est-à-dire que voilà, tu vas du point A au point B, et que peut-être qu'ils veulent complètement se débarrasser de cette structure-là. Mais après, comment tu construis le jeu derrière ?
Ouais, comment tu construis une espèce de progression en fait du joueur, parce que c'est aussi quelque chose qui est très important dans les jeux Ubi, c'est le côté progrès technologique ou de puissance du personnage principal. Donc, est-ce que au final, en faisant ça, ils vont pas tomber dans le fameux travers des Elder Scrolls, c'est-à-dire que t'as tout qui est disponible à peu près, et à force de grinder en fait les quêtes secondaires, bah tu deviens beaucoup trop fort pour le boss final, quoi. Mais en tout cas, ça pose de nouvelles problématiques.
Bon, je pense pas qu'on ait grand-chose à rajouter, messieurs.
Non.
Non plus.
Vous allez pouvoir aller vous coucher ? Oui, parce que je précise, on m'a mis des coups de pression avant le début du podcast en mode « Eh les mecs, moi il faut que je sois couché à minuit ce soir, hein. Je suis comme les poules, hein, donc voilà.
» Oh, les poules, ça fait longtemps qu'elles sont couchées. Hein.
Je vais laisser mes poules aller se coucher. Hein.
Ça peut être très mal interprété, ça.
Je n'agirai même pas.
C'est pas grave, j'assume. Bon, messieurs, je vous souhaite une bonne nuit. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Et n'oubliez pas, le prochain Assassin's Creed, ce sera peut-être un énième putain de jeu de craft en monde ouvert.
C'est pas faux.
Salut.
Salut.
Salut. Salut.